Déjà, bonsoir à tous. Merci à Mario de m'accueillir ce soir. Merci à Renaud Evrard de Limi qui m'avait proposé la première fois aussi de participer, enfin au nom de Limi. Donc merci à Limi de m'accueillir. Je rebondis avant de parler un peu des prémices de l'INRES sur ce que vient de dire Mario. Effectivement, j'ai vraiment le sentiment, après un an d'aventure, un an et demi d'aventure INRES, qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire ensemble. Donc je suis très heureux de pouvoir venir ici ce soir vous présenter pourquoi est-ce que l'INRES est arrivé comme ça, alors que l'IMI existe depuis 90 ans. Juste en bref aparté, on va organiser conjointement différents événements, on va organiser des stages, des formations. Ça va être mis en ligne sur nos deux sites dans les mois qui vont venir. Donc je sais qu'on a eu un certain nombre de questions dans les premiers mois de notre existence, nous disant, mais alors l'IMI, l'INRES et l'IMI. Donc voilà, vous êtes ici ce soir pour constater qu'on est très copains et qu'on travaille dans la même direction avec deux voitures différentes, mais qu'on va dans la même direction avec beaucoup d'intelligence et d'amitié. Donc, merci à toi, Mario, pour tout ça. Donc, moi, comment est-ce que ça a commencé? Je pense que je suis comme beaucoup d'entre vous ce soir. C'est-à-dire que pour moi, toutes ces histoires extraordinaires, ça ne faisait pas partie de ma réalité, ça ne faisait pas partie de mon monde, ça n'existait pas. Je suis à la base journaliste, reporter de guerre. J'ai pratiqué ce métier pendant une quinzaine d'années, beaucoup en Asie, beaucoup en Afghanistan, sur différents autres conflits au Cachemire. J'ai eu depuis mon plus jeune âge, parce que je suis parti en Afghanistan la première fois à l'âge de 19 ans, au moment de l'occupation soviétique de ce pays, en 88. J'ai eu toujours depuis 20 ans maintenant, enfin plus de 20 ans, cette envie d'aller découvrir, cette envie de voyage, d'évasion, de rencontre. Et ce premier voyage que j'avais fait en 88 en Afghanistan avait été pour moi extrêmement marquant parce que je m'étais rendu compte presque physiquement de la possibilité de sortir d'un univers, d'un contexte culturel dans lequel j'avais baigné pendant les 19 premières années de ma vie. J'ai eu la chance de rejoindre un groupe de moudjahidines clandestinement à l'intérieur de l'Afghanistan occupé. Donc ça impose un investissement physique assez fort. J'ai passé des semaines et des semaines dans le maquis avec les résistants, donc sans parler anglais, en apprenant le farsi, en m'immergeant complètement dans cette société afghane qui était très très dure, enfin qui est toujours très très dure. Et donc ça m'a permis de constater tout ce que je laissais derrière moi. Je faisais des rêves la nuit, je rêvais du bon marché et du supermarché du bon marché. Parce que j'habitais dans une chambre de bonne rue Saint-Placide à l'époque, et je vous assure, je rêvais de l'épicerie du bon marché, je voyais les pots de confiture, des trucs comme ça, c'était terrible, terrible. Et là, j'étais dans un camp, voilà, dans des abris souterrains, dans la montagne, perdu, à manger de la soupe, du riz, de la soupe, du soupe, de la soupe, du riz, du pain, du thé, du pain, du thé, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est anecdotique, y a les combattants afghans le font toute leur vie. Moi, je me suis trouvé projeté là-dedans et je me suis rendu compte à quel point j'avais été physiquement extrait de mon univers, de ce qui m'avait formé, de mon pays, de la France. J'ai ressenti ça vraiment comme une extraction d'une bulle qui était ma société, qui était ce qu'on appelle un peu un paradigme aujourd'hui aussi, enfin ce qu'en philosophie des sciences on appelle un paradigme. Et quand je suis revenu en France plusieurs mois après, j'ai eu l'impression de ressortir d'une bulle de l'Afghanistan et de revenir chez moi en France. Et ça m'a appris beaucoup parce que j'ai eu la bonne idée, face à mes parents, son seul juge, de ne pas finir ma scolarité, de partir en Afghanistan alors que mes amis passaient leur bac. Donc je suis arrivé en Afghanistan en m'intronisant moi-même journaliste. Les Afghans m'ont cru, donc c'était parfait. Mais moi, sur place, je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est qu'être journaliste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Je suis arrivé le 13 mai 1988. J'ai passé physiquement la frontière à pied. Le 15 mai, c'était le début du retrait soviétique d'Afghanistan. Bon, il paraît que c'était une actu, donc il fallait faire des papiers. Je ne savais pas du tout quoi faire. Donc je me suis laissé immerger complètement et je me suis laissé pénétrer un peu de ce qui, moi, me semblait essentiel, important. J'ai passé donc les premières semaines non loin de la frontière pakistanaise, en territoire afghan, dans des camps, à être bombardé assez régulièrement et puis à m'embêter, à m'ennuyer terriblement parce qu'il n'y avait rien à faire. Et j'ai découvert. Voilà, la guerre, je m'attendais à un film hollywoodien, je découvre que c'est l'ennui, un ennui terrible. Et puis, pendant quelques minutes, parfois la nuit, parfois la journée, une fraction intense de terreur, de peur, parce que tout d'un coup il y a un bombardement, tout d'un coup il y a une attaque ou un truc comme ça. Et je me dis, tiens, ça c'est peut-être plus important que d'aller comptabiliser combien de soldats soviétiques sont en train de passer le pont de l'amitié et retourner en Ouzbékistan. Donc voilà, j'ai commencé déjà à formater un petit peu ce qui allait devenir ma méthode de travail journalistique, c'est-à-dire c'est le terrain, c'est la réalité qui m'entoure, qui nourrit ma réflexion et qui me donne les éléments qui vont après être analysés, transformés et mis sur le papier et ordonnés pour faire un article. Et j'ai eu la chance après, dans les mois et puis les années qui ont suivi, de tomber sur des chefs de journaux, je pense à un monsieur qui était rédacteur en chef du Figaro à l'époque, qui m'a fait refaire, je crois, 7 ou 8 fois ma copie pour un petit papier. Et je lui en suis encore reconnaissant parce que voilà, grâce à lui, j'ai appris un peu à mettre en ordre justement cette perception de la réalité. Et pendant les 15 années qui ont suivi, ça a toujours été même encore aujourd'hui d'ailleurs, mais en tant que journaliste et vraiment de journaliste d'investigation, ça a toujours été mon leitmotiv. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce que les gens qui sont sur le terrain disent et racontent de cette réalité? Et j'ai travaillé sur des conflits qui sont émotionnellement assez chargés. L'Afghanistan, avec le régime des talibans que je suivis de début à la fin, était un sujet assez émotionnellement fort. Mais j'ai travaillé dans les Balkans, j'ai travaillé en Somalie, au Cachemire, donc sur des zones où, sur les questions qui m'ont touché, notamment l'islam radical, le terrorisme, le trafic de drogue, des questions où souvent vous apercevez qu'il y a une réalité, il y a l'idée qu'on s'en fait, et l'idée qu'on s'en fait est basée sur beaucoup d'a priori émotionnels, et souvent, parfois, je vois pour l'Afghanistan, pour la drogue, enfin, c'est ce genre de questions, l'idée qu'on s'en fait n'a plus grand-chose à voir avec ce que l'on constate sur le terrain. Ça, c'est vrai d'ordinaire dans le journalisme, mais c'est plus encore affirmé sur des questions, des questions émotionnellement fortes, comme l'ont été, par exemple, la guerre civile afghane. Donc, je suis arrivé sur ces sujets bizarres, je dirais, avec une prédisposition et avec déjà des outils qui m'ont permis de gérer les réactions émotionnelles, les idées préconçues, cette habitude que nous avons dans notre société d'avoir une idée sur tout. Et puis de savoir déjà, avant même de lire le journal, avant même d'entendre les nouvelles, je parle beaucoup pour les journalistes, mais aussi pour nous, les simples citoyens, de savoir déjà tout ce qui se passe. Donc ça a en fait duré de 88 jusqu'à 99, 2000. Je vais faire la partie biographique assez courte, mais je suis arrivé un peu après 30 ans à me dire que justement j'avais envie de faire ce métier un peu différemment. L'Afghanistan est devenu un pays dans lequel je me suis énormément impliqué, que j'ai adoré. La situation politique empirait de plus en plus, les talibans étant une bande de fous et l'Occident les considérant comme rien d'autre que des fous. On était dans une situation totalement bloquée. Or, moi je constatais en Afghanistan même des gens merveilleux, prodigieux, qui avaient envie de continuer à travailler pour leur pays. Je constatais au Pakistan ou dans la région asiatique autour, Asie centrale, des diplomates, des journalistes, des gens qui connaissaient avec beaucoup plus de nuances ce pays. Donc j'avais envie d'aller un peu plus loin, de m'y impliquer. Donc a commencé pour moi une période de ma vie qui a été une période de transition assez, assez importante, où j'ai commencé à m'éloigner un petit peu de mon travail de journaliste, à vouloir écrire plutôt des bouquins par exemple. J'avais l'impression sur 300-400 pages de pouvoir mieux exprimer la complexité d'un sujet. Et puis j'ai mélangé la passion de l'Afghanistan avec les objectifs qui étaient les miens à cette époque-là, en partant sur une idée de fou, mais ça j'en ai quelques-unes des idées de fou, et je pense que l'INRES en est aussi une, qui a été de me dire, voilà, l'Afghanistan est connu en Occident pour les 25 dernières années de sa vie tragique, la guerre civile, l'invasion soviétique plus la guerre civile. Peut-être qu'il faudrait faire connaître les 5000 années précédentes avec le passage d'Alexandre le Grand, avec le bouddhisme, avec l'Empire Kouchan, enfin ce patrimoine archéologique qui est prodigieux. L'Afghanistan était au carrefour de tant de civilisations. Donc je suis parti en août 2000 avec une idée un peu abracadabrante de proposer aux talibans, enfin aux modérés du régime taliban, de me laisser m'installer en Afghanistan pour ouvrir une antenne de la Société des Explorateurs Français dont je faisais partie. Le président de la Société des Explorateurs Français est aussi fou, donc il m'a dit « vas-y ». Et je suis arrivé à Kaboul en août, et 2 jours après, je rencontrais Mollah Moutawakil, qui était le numéro 2 du régime à cette époque-là, qui faisait partie de ceux qui essayaient encore de dire « calmons le jeu, on va vraiment dans le mur ». Et quand je lui ai proposé ça, il m'a dit « très bien, allons-y ». Donc voilà, on est parti sur l'idée de, alors que tout partait vraiment à volo, de monter cette mission en Afghanistan pour aller inventorier notamment tout le patrimoine qui est dans la vallée de Bamiyan, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Il y avait les deux statues géantes qui ont été dynamitées quelques mois plus tard, mais il y avait aussi des centaines et des centaines de grottes, parce que cette vallée était un complexe monastique très très important au 8e, enfin entre le 5e, 6e siècle jusqu'au 10e siècle. Donc il y avait des grottes avec des fresques merveilleuses, dont certaines sont encore accessibles et encore en état. Donc avec le musée Guimet, avec l'UNESCO, on avait convenu que notre présence sur place allait servir à faire un peu l'inventaire de l'état de ce patrimoine archéologique bouddhiste, mais aussi d'autres patrimoines pré-islamiques, Kushan par exemple, tout le patrimoine afghan. Je vais essayer de réduire parce que sinon on est encore là à minuit, mais c'est passionnant. Et donc voilà, on a commencé notre activité, et il s'est passé pas mal de choses complexes. C'était un projet qui était beaucoup plus ambitieux que de simplement aller faire un reportage à Bamiyan, donc ça nécessitait la mise en œuvre de pas mal de moyens. Donc moi j'ai fait bouger beaucoup de choses avec des éditeurs, des chaînes de télévision pour avoir les moyens de commencer. J'aurais voulu commencer à l'automne 2000, malheureusement les finances et puis aussi les combats qui avaient lieu dans la partie plus orientale du Hazarajat, qui est la région centrale de l'Afghanistan où se trouvent les Bouddhas de Bamiyan, compliquaient un petit peu notre accès à la vallée. Donc plutôt que d'aller trop vite, on s'était dit, en octobre 2000, on s'était dit, on laisse passer l'hiver, on laisse passer la situation, de toute façon on est là pour des années, et on commencera à travailler sur le site de Bamiyan, qui était le premier site à inventorier, à partir du début du printemps, donc fin mars, début avril. Et puis là-dessus, est arrivé ce qui est arrivé, c'est que on a notre travail a rejoint l'espèce de folie furieuse qui avait lieu dans le mouvement taliban et dans la choura taliban. Les talibans, c'est une choura, c'est-à-dire c'est un conseil qui est composé de 20-30 personnes. Il y en avait parmi ces 20-30, deux ou trois qui avaient un peu une idée, qui avaient un peu conscience qu'ils allaient complètement dans le mur. Mais les autres étaient vraiment jusqu'au boutiste en se disant l'Occident n'a pas de leçon à nous donner, les femmes, de toute façon c'était comme ça avant, donc on change rien, les bouddhas et les statues c'est des trucs complètement kafirs, donc infidèles, donc on va rendre service à tout le monde en les détruisant. Je me souviens même d'un mollah qui avait dit pendant une prêche à Kaboul, voilà, c'est quand même dommage que avant l'islam, il n'y ait pas eu l'islam. Parce que voilà, il y avait d'autres religions totalement ridicules qui avaient inventé des statues, etc., etc. Je rentre pas là-dedans parce qu'on est très long là. Là-dessus, on s'installe dans notre maison à l'automne et on revient en France avec l'équipe dans le gros de l'hiver et je reviens à Kaboul avec mes deux frères qui travaillent avec moi à la mi-février. Je la fais parce que c'est quand même en termes de synchronicité, ça faudrait travailler un jour, j'essaierai de comprendre ça, mais on arrive à Kaboul le 25 février au matin, on passe la nuit à la maison et le lendemain matin il y a un tremblement de terre, donc là je bondis de mon lit en me cachant dans la porte en me disant mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire pendant un tremblement de terre ou au contraire est-ce que c'est ça qu'il faut surtout pas faire pendant un tremblement de terre. Enfin, voilà, petite histoire. Et puis le soir, on est invité à dîner à l'ambassade de France, qui était inoccupée, mais dans lequel venait de temps en temps le chargé d'affaires français qui était logé habituellement à Islamabad au Pakistan et qui venait de temps en temps à Kaboul. Donc là, on dîne à l'ambassade le soir avec plusieurs talibans du ministère de la Culture. C'était très rigolo. Et à la fin du dîner, il y a un employé qui vient parler à l'oreille de Jean-Yves Berthaud, qui était le chargé d'affaires, que je vois devenir livide. Et qui nous annonce, Mullah Omar vient d'annoncer sur Radio Sharia que les Bouddhas allaient être détruits. Et là, on est soufflé. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Enfin, déjà, qu'est-ce qu'on fait là? Ça fait 8 mois qu'on travaille d'arrache-pied pour essayer de monter quelque chose. Et là, tout d'un coup, on devient opérationnel, on lance le truc. C'est terrible, c'est terrible. Donc là, il va se passer plusieurs semaines d'hésitation. On est en contact avec l'UNESCO. On réceptionne Pierre Lafrance, qui est un ancien ambassadeur de France, qui s'est occupé qui était ambassadeur de France au Pakistan, qui était ambassadeur de France en Iran au moment de pas mal d'histoires politiques entre la France et l'Iran, et qui est envoyé par l'UNESCO pour essayer, parce qu'il parle arabe, persan, pashtoun, pour essayer de régler un peu la situation. On le réceptionne, il va à Kandahar, on essaie de trouver une solution. Moi, je lui fais dire qu'on est sur place, on est opérationnel, on a des voitures, on a un accès au pays qui est sans commune mesure avec ce que les journalistes peuvent voir à cette époque-là. C'est très compliqué à cette époque-là pour voyager en tant que journaliste. Nous, on est libre comme l'air, on a une voiture, on a des prétextes pour se déplacer partout. Donc je lui dis, Pierre, s'il y a besoin d'aller voir des gens dans les ministères, essayer de voir si des choses sortent, etc., on est là. Donc je décide, malgré cette folie qui s'abat, enfin cette nouvelle folie qui s'abat sur le pays, j'hésite quand même de rester. Ma femme me rejoint, Natacha, qui est ici. dans l'idée d'essayer de rassembler le maximum de matériel, d'essayer de filmer ce qui se passe, parce qu'on a l'impression d'être parti dans une spirale qui encore quelques mois auparavant pouvait être sauvée. Là, on a l'impression que tout s'emballe et que tout devient totalement fou. Donc je me dis, bah là, mon étincelle de journaliste revient en me disant, voilà, on a quand même accès à ce pays d'une façon privilégiée, restons-y, on va essayer de raconter cette histoire, raconter ce qui se passe, faire parler des Afghans. Donc Natacha me rejoint, on travaille, on fait des navettes sur le Pakistan, on va voir avec un de mes autres logisticiens, Vadim Schoffel, on fait pas mal le tour des zones tribales pakistanaises pour voir les pièces archéologiques qui sortent de l'Afghanistan. Et puis en avril, alors qu'on descendait à plusieurs en convoi sur Razni, qui est une ville à une centaine de kilomètres au sud de Kaboul, où il y a des sites bouddhistes assez importants, une de nos voitures a un accident et je perds 4 personnes de mon équipe, 2 Français, 2 Afghans, et un des Français était un de mes frères. Donc ça marque un arrêt brutal à cette mission. Dans l'après-midi, on évacue sur le Pakistan. La semaine suivante, je rapatrie les corps en France et je reviens avec mes parents 5 semaines plus tard à Kaboul pour fermer définitivement cette mission qui, de toute façon, n'avait plus lieu d'être, mais qui, là, avec cette histoire-là, me donne envie d'arrêter vraiment les frais-là. Et puis, voilà. Mais le processus de, comment dirais-je, de questionnement, d'envie de changer un peu de façon de travailler est en marche et continue à me faire travailler. Donc, grâce à ma femme qui me donne le cadre et qui me donne la possibilité de pouvoir finir ce que j'avais à finir sur l'Afghanistan, on publie un premier bouquin pour l'anniversaire du 11 septembre, en septembre 2002. Et puis, je tourne la page avec ce pays, avec l'idée de vraiment partir sur d'autres univers. J'ai envie de changer de registre, non pas par amertume, mais parce que j'ai le sentiment qu'une page de ma vie s'est tournée, m'a appris énormément de choses. J'ai appris, comme je vous le disais au début, en Afghanistan, à voir, à questionner et à entendre des gens différents de moi. Ça s'est inscrit au plus profond de mes cellules. Et ce pays m'a donné des choses absolument merveilleuses, m'a donné des choses très très dures à vivre également. Et ça a construit la personne que je suis aujourd'hui, qui aujourd'hui a eu envie de s'engager dans d'autres voies. Donc l'INRES maintenant, c'est né d'une façon un peu bizarre. Comme je vous le disais, pour moi, ces expériences extraordinaires étaient hors du domaine de la réalité. Donc il a fallu un événement un peu cocasse pour que cette hors-réalité devienne pour moi une réalité. Ça a été une interview que j'avais faite avec un jeune dignitaire tibétain qui venait de s'échapper du Tibet, le 17e Karmapa, qui a quitté le Tibet au tout début de l'année 2000, enfin qui a quitté le Tibet en fin 99 et qui est arrivé en Inde tout début de l'année 2000. C'était un jeune dignitaire à l'époque de 14 ans, qui a créé un pataquès énorme entre l'Inde et la Chine parce que c'était le dernier très haut dignitaire bouddhiste, enfin du panthéon bouddhiste, enfin du, pas du panthéon, du, de, des écoles du bouddhisme tibétain qui était encore présent sur le sol chinois. Manque de peau, les Chinois l'avaient reconnu et intronisé en tant que 17e Karmapa et le Dalai Lama aussi. Donc c'était la seule carte importante que les Chinois pouvaient encore jouer. Ce garçon décide de s'échapper donc dans les derniers jours du mois de décembre 99 et apparaît le 5 janvier à Dharamsala. Donc ça crée une tension diplomatique assez importante. Et quelques semaines plus tard, je suis à Dharamsala pour Arte, pour faire un film sur ce garçon, mais pas du tout avec une visée spirituelle, plutôt en essayant de décrypter un petit peu la tension diplomatique. Pourquoi est-ce qu'un garçon de 14 ans crée un tel pataquès dans ce pays? Donc on n'a pas accès à lui parce qu'il est au secret. Mais l'histoire me passionne. L'histoire me passionne tellement que, sitôt rentré en France et le sujet diffusé sur Arte, je repars à Dharamsala en mars ou avril, en mars, dans l'idée de faire un bouquin sur ce garçon, parce que il me semble être à la frontière de choses qui m'intéressent, mais je dirais de façon intérieure et de façon personnelle, qui sont le bouddhisme tibétain et cette religion que je trouve intéressante sur bien des aspects. Et en même temps, ça m'intéresse parce qu'il est totalement imprégné dans la politique actuelle, dans la politique du Tibet, de l'occupation chinoise du Tibet. Et je trouve que c'est un moyen, à travers la biographie de ce garçon, de traiter de deux aspects de l'action humaine et de la politique humaine sur notre planète. Donc je suis de retour à Dharamsala en mars. Et je commence une enquête, je commence à faire un travail sur son échappée, sur la biographie du bonhomme. Et puis, je vais avoir la chance de le rencontrer, alors qu'il est inaccessible aux journalistes. Une succession de hasards fait que je peux avoir un premier entretien avec lui, puis un deuxième, et puis un troisième, et puis il accepte de collaborer à mon bouquin. Et puis voilà un jour, le 6 avril, je le raconte d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, on ne peut pas le proposer, mais j'ai écrit un bouquin qui raconte tout ça, et je commence sur l'histoire du Karmapa. On commence un entretien le 6 avril au matin, où je dois l'interroger sur précisément l'itinéraire qu'il a choisi pour s'échapper du Tibet. Quand je rentre dans la pièce, on est tous les deux, il y a juste un traducteur qui parle très mal l'anglais, et puis lui, et puis moi. Et là, l'ambiance est très très tendue, très particulière, très dense. J'ai interviewé plusieurs fois des gens connus, c'est toujours assez impressionnant. J'ai interviewé le Dalai Lama plusieurs reprises, c'est quelqu'un d'impressionnant. Mais là, je suis en face de quelqu'un qui dégage quelque chose de 100 fois plus puissant. C'est très 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 perturbant. Il a 14 ans. Donc on commence l'interview, où je lui pose des questions, et puis il répond pas, ou il répond de travers. Alors une partie de moi me dit, mais il se fout de moi. Et je suis vraiment énervé, je suis à deux doigts de me lever et de me dire, bon allez, il est gentil le garçon, mais je m'en vais. Et puis une autre partie de moi me dit, attends, t'as quand même quelqu'un qui est dépositaire d'une idée religieuse dont le premier descendant, le premier Karmapa, est arrivé au Tibet alors que Godefroy de Bouillon venait de prendre Jérusalem. Donc ça vous donne un peu une idée de la durée de la présence de ce garçon chez nous. Donc je me dis, voilà, je suis dans cette espèce de paranoïa, de schizophrénie, en me disant, il me dit quelque chose d'intéressant, on n'est pas là par hasard, puis en même temps, à quoi il joue. Et puis d'un coup, il me dit, vous savez, il y a d'autres êtres dans l'univers, vous devriez vous intéresser. Alors là, je le regarde, je dis, ah oui, d'accord, c'est très bien, c'est pas le sujet de mon bouquin. Oui, mais vous devriez vous y intéresser. Mais il me dit pas ça en rigolant, il me dit ça avec beaucoup de sérieux, donc ça m'intrigue vraiment. Et puis j'essaie de revenir à la question, mais ça dévie, il revient encore sur cette idée-là, il me dit, vous savez, il y a d'autres êtres dans l'univers, dans le bouddhisme, on considère qu'il y a plusieurs états, plusieurs règnes d'existence, et qu'il y a d'autres entités, d'autres êtres humains, alors je sais pas si c'est mal traduit ou s'il disait vraiment être humain, qui vivent dans l'univers, ça serait important de travailler dessus. Donc je dis, ok, ben alors vous allez m'aider, parce que je sais pas du tout comment je peux commencer à travailler là-dessus. Et puis il me dit, oui, je vous aiderai, et puis voilà, c'est tout. Et puis, il répond pas aux questions suivantes, donc je me dis, c'est tellement... On arrive à un mur, je comprends pas, je suis assez désarçonné par ça. Je dis, bah écoutez, on va arrêter là, l'interview. Je me lève, je prends congé, je sors, le traducteur me prend comme ça, et puis on marche un petit peu, je dis, mais à quoi il joue, qu'est-ce qu'il a voulu me dire là? Alors le traducteur me dit, bah écoutez, je sais pas du tout, je peux juste vous dire qu'effectivement, nous, dans le bouddhisme, on croit à l'existence d'autres êtres, et puis voilà, et puis c'est tout. Puis je ressors, c'est toujours d'ailleurs, le Karmapa est toujours dans ce monastère qui est dans le bas d'Aramsala. Donc je reprends ma voiture, je remonte dans le petit village du haut d'Aramsala, McLeod Ganj, et là je recroise un Américain qui est un bouddhiste, qui suit le Karmapa depuis sa précédente incarnation, un grand bonhomme, très exubérant. Et puis on va prendre un thé, je lui raconte ça, et puis il me dit, non une bière, je buvais de la bière à l'époque. Et puis il me dit, je lui raconte ça, et puis il me dit, mais c'est extraordinaire, je vais te présenter, je connais une extraterrestre qui habite à Hawaï, je vais te donner son email, tu vas pouvoir l'écrire. Et voilà, et là moi j'ai dit, allez stop, on arrête, c'est pas possible, je bloque. Et j'ai tout fermé pendant 3 ans, parce que mettez-vous à ma place, enfin vous êtes à ma place. Qu'est-ce que vous voulez faire, quelqu'un qui vous dit une ânerie pareille? Et vraiment, voilà, j'étais quelqu'un ni de malhonnête, ni de spécialement borné, sauf que cette idée-là, pour moi, était, ok, ça peut faire partie de la philosophie bouddhiste, c'est intéressant, pourquoi pas, un jour je m'y pencherai si j'ai envie de me plonger dans le bouddhisme, mais dans ma réalité, à moi, quotidienne, de français, de voyageur, ça, je vois pas, ça existe pas, j'en ai jamais entendu parler, les livres qui sont écrits sur ces sujets-là sont forcément des âneries, mais voilà, sans même avoir conscience que j'ai une idée préconçue sur ce sujet d'abord. Et puis, il va se passer donc 3 ans, pendant ces 3 ans, il y aura donc cette mission en Afghanistan, la mort de mon frère, une envie de changer un peu d'horizon, et puis, une opportunité qui se présente au printemps, tout début du printemps 2003, où je travaille pour France 2, je viens de faire pour France 2 un gros documentaire sur les routes du trafic d'héroïne en Asie centrale. Et pendant la projection presse, je me souviens précisément ce jour-là, là aussi c'est encore un conseil de ma femme, qui faut toujours écouter sa femme, qui me dit « tu devrais profiter de cette projection de presse pour proposer quelque chose aux responsables des documentaires de France 2 ». Je dis « pas bête ». Donc je commence à réfléchir, et je réfléchis à des sujets que je connais, donc Afghanistan, Taliban. Je me souviens qu'à cette époque-là, je m'intéressais beaucoup à ce jeune garçon qui s'appelait John Walker Lind, qui était un jeune garçon idéaliste qui avait rejoint les Talibans et qui avait été capturé par les forces américaines dans le nord de l'Afghanistan, dont on a vu la photo hirsute avec des cheveux longs. Je trouvais le bonhomme assez fascinant, assez rigolo, donc j'avais envie de faire un portrait de lui. Donc je commence à écrire un synopsis d'un portrait de lui, et en plein milieu de ça, je me dis « mais non ». Ce dont m'a parlé l'autre rigolo là d'Aram Saleh il y a 3 ans, ça serait peut-être intéressant de se plonger dessus. J'ai un peu de temps, J'ai une opportunité professionnelle, allons-y. Donc je commence à lire 3-4 livres sur la... Mais alors là, j'y vais très très dans les clous, c'est-à-dire je m'aperçois qu'en 95, Meyer et Queloz ont découvert la première planète extrasolaire, donc une planète orbitant autour d'une autre étoile que notre Soleil. Donc je me dis, voilà une piste en cosmologie qui est intéressante, parce que depuis leur découverte en 95, on en a découvert plus de 100, à l'époque c'était donc en 2003, et les découvertes sont exponentielles, donc voilà la possibilité d'existence d'autres planètes, et pourquoi pas d'autres planètes habitables. Enfin, pas dans notre système solaire justement, mais dans d'autres systèmes solaires, voilà une piste intéressante. L'exobiologie également était une piste intéressante. Donc je commence à travailler dans cette direction-là. Et puis je lis un livre ou deux sur les ovnis, beaucoup de bêtises, et puis je tombe sur un livre de Pierre Guérin, qui était astrophysicien, qui est décédé aujourd'hui. Et je suis assez intrigué, parce que la biographie du bonhomme ne cadre pas du tout avec le sujet. Donc je le lis quand même par curiosité, et là je m'aperçois qu'il semble y avoir un peu de consistance dans ce dossier. Donc ça m'intrigue suffisamment pour avoir envie de poursuivre. Donc à cette fameuse soirée à France 2, je vois le responsable des documentaires et je lui propose ça. Je lui dis, écoute, voilà un univers qui n'est jamais traité en télévision de façon sérieuse. J'ai envie de m'y pencher. J'ai du temps pour faire ce qu'on appelle en télévision, en production, du développement. Donc, est-ce que tu me suis? Est-ce que le sujet t'intéresse? Il me dit, allons-y. Et donc, je suis parti pour plusieurs mois où j'habitais non loin d'ici et j'ai pris l'habitude d'aller toutes les semaines chez Gibert pour acheter tous les livres que je voyais arriver, neufs et occasion, dans le rayon ufologie, ovni, et aussi je continuais à travailler sur les pistes scientifiques plus sérieuses. Et puis j'ai lu un monceau d'âneries phénoménal, mais je suis tombé sur d'autres livres, le livre de Peter Storock, par exemple, qui rend compte de la réunion de Pocantico, qui a traité de ce sujet. Je lis certains premiers livres de Jean-Pierre Petit, et puis voilà les quelques autres titres qui, sur ce sujet-là, montrent que le dossier ovni est un dossier certes extrêmement pollué, mais quand même sérieux, sur lequel il y a des observations avérées qui ne reçoivent pas d'explication, malgré le fait qu'on ait, pour ces cas-là, beaucoup d'éléments. Je découvre l'existence au sein du CNES, donc du Centre national d'études spatiales, d'un service qui est censé étudier ce phénomène. Il ne l'étudie pas vraiment parce que c'est un peu une peau de chagrin, le budget qu'il a depuis 30 ans, mais au moins il existe. Au moins un protocole d'échange d'informations existe entre ce service-là, la gendarmerie, l'aviation civile et différents services de l'État français qui permettent de centraliser les rapports qui peuvent parvenir tout bout de champ à la France. Au sein du CNES. Donc je lui dis, c'est intéressant, je rencontre le responsable du CNES à l'époque, qui était Jean-Jacques Velasco. Il était déjà viré. Ou il était en passe d'être viré, Jean-Jacques. Mais voilà, Jean-Jacques, puis son successeur, Jacques Patenay. Et puis je poursuis cette enquête-là dans cette voie-là. Je rencontre des militaires, je rencontre des pilotes militaires qui ont été témoins d'OVNI. Et là, je suis vraiment estomaqué. Je suis vraiment estomaqué pour deux choses. La première, c'est de découvrir que le sujet est consistant. C'est-à-dire que, pour reprendre un petit peu les pourcentages que propose le CNES, vous avez à peu près 6000 cas, 6000 procès verbaux de gendarmerie qui ont été collectés et amassés au sein du CNES depuis les années 50. Enfin, le service du CNES existant depuis 1977, mais ils ont récupéré également des procès verbaux de gendarmerie qui datent depuis les années 50. Donc à peu près 6000 cas. Sur ces 6000 cas, la moitié sont expliqués assez rapidement. C'est-à-dire qu'il y a une confusion évidente du témoin qu'on a pu confirmer par ailleurs. Donc il ne s'agit pas d'un objet volant non identifié, mais quelque chose qui a été finalement identifié. Il reste, donc voilà, on élimine 50% des cas. Il reste à peu près une moitié de ces 50% restants pour lesquels on n'a pas assez d'éléments. C'est-à-dire que le témoin était unique, on n'a pas trouvé d'explication. Parce que voilà, on n'a pas vu que c'était une confusion avec la planète Saturne ou un faisceau de boîte de nuit ou un dirigeable ou une rentrée atmosphérique ou je ne sais quoi. On ne sait pas, donc on est obligé de laisser tomber parce qu'il n'y a qu'un seul témoin ou il y a une pauvreté des informations. Donc voilà, on laisse tomber. Et il reste, ça c'est deux catégories, et il reste une dernière catégorie, la catégorie D, qui suivant les études comporte soit 12, soit 18, soit 10%, enfin quand même plus de 10%, de cas pour lesquels on a multi-témoins, des traces physiques éventuelles, des éléments assez concrets montrant qu'on a été confronté à quelque chose, un objet, qui n'a pas été un objet avec une trajectoire aléatoire, par exemple comme un bolide, comme un météorite qui traverserait un champ de vision, mais qui aurait été un météorite qui aurait changé de direction. Et sur ce pourcentage-là, qui est quand même significatif, on ne peut pas fournir d'explication. Et ça, j'ai trouvé ça vertigineux. Et c'est là où le journaliste en moi s'est remobilisé complètement, parce que ça, j'accepte pas. S'il y a des faits, on travaille dessus. S'il n'y en a pas, on laisse tomber. Mais s'il y en a, on ne peut pas laisser tomber au prétexte que c'est bizarre, c'est pas possible. Ça, moi, j'acceptais pas du tout. Donc, j'ai essayé de comprendre où était le blocage. Et c'est devenu, je dirais, autant que l'enquête en elle-même, c'est devenu vraiment le souci que j'ai eu pendant les mois qui ont suivi, d'essayer de comprendre où est-ce que ça coinçait. Pourquoi est-ce que si j'ai un gendarme en face de moi qui me dit « j'ai vu Monsieur Robert tuer Monsieur Yves et s'enfuir dans le bois », eh ben, ça posera aucun problème, le témoignage de ce gendarme conduira M. Robert à être condamné à prison à perpétuité. Pourquoi si ce même gendarme dit « j'ai vu M. Robert » et puis à côté de lui il y avait une soucoupe volante qui est partie très très vite comme une mouche, pourquoi est-ce que tout d'un coup M. Robert devient un guignol et un rigolo? C'est pas logique, c'est pas normal. Enfin moi j'accepte pas. Et donc j'ai avancé dans cette piste-là, j'ai continué à travailler avec les gens qui me paraissaient être des gens sérieux dans cette piste de recherche qui était le dossier OVNI. Et puis surtout, il est apparu assez rapidement qu'il y avait une question au-dessus de ça, qui était la question suivante, la question ultime. Mais alors si c'est pas des objets, enfin si c'est des objets qui laissent donc des traces physiques, qui n'ont pas un comportement aléatoire, si c'est pas un comportement aléatoire, ça veut dire que c'est un comportement intelligent. Mais ça veut dire quoi ce mot intelligent? Si c'est pas piloté par l'homme. Donc là, on commence à entrer dans un champ d'hypothèses qui sont extrêmement vastes et qui, je dois le reconnaître aujourd'hui, devraient rester dans le domaine de l'hypothèse. Parce que là, on rentre dans des projections qui sont plus nos propres projections. Mais voilà, je suis donc... Je poursuis, on pourra revenir sur cette question, mais on est à l'approche de l'été 2003 avec cette idée... Je me souviens très bien, ce qui a été vraiment marquant, je crois que c'est trois pilotes militaires que j'ai rencontrés, dont un qui est un des dirigeants d'Assaut Aviation aujourd'hui, qui était colonel à l'époque, et qui a été confronté, je crois que c'était en 1977, qui a été confronté aux commandes de son Mirage 4 à un objet qui a fait des manœuvres d'évitement, alors que lui essayait justement d'aller à l'interception sur cet objet. Quand ce colonel m'a raconté cette histoire-là au domicile du général Letty il y a quelques années, il était tremblant. Il était tremblant d'émotion parce que vous sentiez que ça refaisait jaillir, non pas plein de certitudes, non pas plein d'idées sur ouais, c'est un petit vaisseau qui vient de telle planète, etc. Ça faisait ressurgir un doute terrible. Parce que j'avais en face de moi un type qui avait fait cette observation, il devait avoir 27, 28 ans à l'époque, qui était au top de sa forme, un pilote de l'armée française, la police du ciel. En plus, le colonel Giraud étant pilote Mirage 4, il a l'arme nucléaire sous les épaules, sous les ailes. Donc c'est pas le premier venu, c'est quelqu'un qui est capable, en une fraction de seconde, d'identifier tout ce qui apparaît dans son volume de vol. Il y va de la sécurité de sa mission, de la sécurité du territoire. Donc voilà, j'ai pas en face de moi quelqu'un qui est pas vraiment sûr, qui est sorti du bar après un mariage à 3h du matin. J'ai quelqu'un qui est en mission, qui voit un objet, qui décide d'aller à l'interception, et cet objet joue avec lui et s'en va. Moi, j'en ai encore des frissons et d'en parler maintenant, parce que cette observation-là, ce cas-là, ouvre pour moi des questions phénoménales. Alors on peut se dire, il a confondu. C'est pas très satisfaisant. Enfin, pour un journaliste, c'est pas très satisfaisant du tout. On peut se dire, il me ment. Ok, il me ment. Bon, on peut en rester là. Il y en a beaucoup qui en restent là. Moi, j'avais pas envie d'en rester là parce que j'avais le sentiment au fond de moi, enfin, tout en moi me disait que ce type-là me mentait pas parce qu'un autre m'avait dit exactement la même chose, encore un autre, etc., etc., etc. Et puis, alors là aussi, c'est encore les hasards de l'existence qui font bien les choses. Je vais ma petite visite hebdomadaire chez Gilbert Jeune pour voir les nouveaux bouquins arriver et je vois un livre dans la collection les aventures secrètes de J'ai lu. Marie-Thérèse de Brosse, enquête sur les enlèvements extraterrestres. Je prends le bouquin, il est en poche, il est soldé, ça je peux vraiment pas. Et puis, je me dis, bon allez, lis-le quand même, lis-le. Je me faisais vraiment violence pour lire tout ce qui arrivait dans ce rayonnage. Donc je reprends le bouquin, je crois qu'il était à 2,45 en francs à l'époque. Ah ben non, c'est pas possible que ce soit en francs. Enfin bon, peu importe, pardon. Et je le lis. Donc je découvre ce phénomène qu'il connut aux États-Unis sous le nom de abduction, le phénomène des enlèvements extraterrestres. Je découvre les différentes personnes qui ont travaillé dessus, Bud Hopkins, David Jacobs, et je découvre là encore quelqu'un qui... je découvre déjà que le sujet a l'air plus sérieux que je m'imaginais. Ça m'interloque pas mal, mais Et bon, quand même, ça reste difficile à entendre. Sauf que parmi les gens qui ont travaillé sur ce phénomène, il y en a un qui me rend extrêmement curieux, qui s'appelle John Mack. Pourquoi ? Parce que John Mack est fondateur du département de psychiatrie de l'université de Harvard. Il est prix Pulitzer, il est psychiatre depuis 40 ans. Et a priori, ça m'a pas l'air d'être quelqu'un qui est le premier des guignols. Donc je suis vraiment interloqué et je reste dans une envie d'en savoir un peu plus. Je découvre que John Mack a publié un premier bouquin en 1994 qui s'appelait Abduction, qui a été traduit en français. Et là, alors je ne vais pas y mettre encore de signes, mais je retourne à Gibert la semaine suivante et qu'est-ce que je vois alors que depuis 6 mois je ne l'ai pas vu ? Le livre de John Mack qui est là, qui m'attend sagement d'occasion dans le rayonnage. Donc je prends ce livre, je le lis. Et là, je découvre ce qui est, somme toute, une étude clinique assez rigoureuse qui présente 13 cas de personnes racontant avoir vécu des enlèvements extraterrestres, suivi d'un gros pavé d'explication du phénomène. Et là, je suis assez estomaqué parce que, parce qu'encore une fois, il y a le sujet en lui-même et puis il y a le personnage qui traite ce sujet. C'est pas Bud Hopkins, malgré toute l'amitié que j'ai pour Bud Hopkins. Bud Hopkins est peintre. C'est un artiste qui vit à New York et malgré toute son honnêteté et tout son engagement dans le phénomène des abductions depuis 1975, il n'a pas le crédit qu'on attendrait justement pour pouvoir parler de ce type de phénomène. John Mack là. Encore une foule de circonstances et de hasards heureux font que quelques semaines plus tard, je suis aux États-Unis et je rencontre John Mack pendant un séminaire qui a lieu dans le Maine, organisé en septembre 2003. Et là, je rencontre ce personnage et je m'aperçois que ce personnage incarne vraiment le sérieux qui se dégageait de son livre. J'ai en face de moi quelqu'un qui a une aura, une crédibilité vraiment importante. Je vois quelqu'un qui pèse ses mots, qui est dans une prudence, mais qui montre en même temps toute l'ouverture qu'il a permis sur ce phénomène. Et puis, on participe donc à ce séminaire très très loin près de la frontière canadienne. Et il me dit, si vous voulez rentrer à Boston en voiture avec moi, allez-y. Moi, je dis, oh, génial, il faut absolument qu'on fasse une interview. Je veux faire une interview de lui. Donc, on rentre en voiture. Et puis, on arrive à Boston chez lui. Et puis, il me dit, mais vous dormez où ? Alors, je dis, je sais pas, je vais trouver un hôtel. Restez à la maison. Il a une grande maison, elle est vide. Donc, restez là, si vous voulez. Mais par contre, je vais devoir y aller parce que j'ai invité un anniversaire d'une de mes amies. D'ailleurs, vous voulez pas venir ? Et puis je me retrouve dimanche soir à un très bon restaurant de poisson dans Cambridge avec John Mack et une jeune fille qui a à peu près mon âge qui s'appelle Karine et puis une anthropologue en face de nous. Et puis entre le plat principal et le dessert, je comprends que Karine est une jeune fille qui vit ses expériences d'enlèvement et je la reconnais parce qu'en fait j'avais vu un documentaire quelques semaines avant de partir aux États-Unis où elle était dedans, mais elle a changé de coiffure. Et là, je suis à un moment de ma vie où je peux plus m'échapper nulle part. Et je peux vous assurer que c'est terrible, parce que d'habitude, on arrive toujours à trouver des moyens de s'échapper. Là, je peux plus. Là, ça fait 6 mois que je bosse sur ce sujet. Je sais que c'est sérieux, je sais que le dossier OVNI est consistant, je sais que le travail de John Mack est quand même bien ancré, bien solide, qui ne se démolit pas facilement. Les explications alternatives, on pourrait y venir si ça vous intéresse, sont satisfaisantes pour certaines parties de cas, mais pas tous les cas. Donc, ce phénomène des abductions est quand même une énorme question. Et là, j'ai une jeune fille en face de moi qui a l'air tout à fait normale, mais vraiment comme vous et moi, et qui, d'un coup, m'ouvre son intimité et me dit « Ok, John a l'air de t'aimer, j'ai confiance en toi, je vais te raconter. » Et on rentre chez John, et là, jusqu'à 3h du matin, elle va me raconter ses expériences. Et moi, je suis comme ça. Et je ne peux pas me dire « Elle est folle, elle est psychotique, il y a un truc qui ne va pas. » Je ne peux pas. Donc dans la semaine qui va suivre, je vais rencontrer d'autres abductés, je vais continuer mes discussions avec Karine. Et elle va se livrer, elle va me raconter des choses, il y a une vraie confiance qui me permet qui lui permet à elle de livrer des choses qu'elle livre peut-être pas à n'importe quel journaliste, parce que surtout dans ce domaine-là, journaliste, ça veut dire forcément moquerie, ça veut dire forcément je lui parle pas. Donc là, j'ai la chance qu'elle veuille bien me parler. Puis surtout, je vais pouvoir décrypter ça pendant les journées et pendant une bonne partie du temps avec John Mack aussi, je vais le voir, je dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas fous? Pourquoi est-ce que c'est pas de la schizophrénie? Pourquoi, etc., etc., etc. Et là, je rentre en France après une semaine, c'est ouvert à moi, non pas un scénario bien précis sur ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a des extraterrestres, je ne sais pas si Karine ou Randy ou ces autres personnes que j'ai rencontrées vivent vraiment, vraiment, vraiment littéralement dur comme fer ces expériences. J'en sais rien. Mais tout d'un coup, je rentre en France avec l'idée et la certitude qu'il est maintenant possible de poser ce genre de questions, alors que j'imaginais pas qu'il puisse l'être, que ça puisse l'être simplement 15 jours avant. Et ça, c'est vertigineux. Et je parle de ça et je me suis étendu là-dessus parce que c'est vraiment ce qui anime aujourd'hui l'INRES. C'est cette idée qu'il existe, de par le travail de gens comme John Mack, mais de beaucoup, beaucoup d'autres, la possibilité d'entendre ces expériences, de les écouter, de les accueillir et d'éliminer, si on veut faire une étude et une recherche, d'éliminer de ces discours ce qui peut vraiment être lié à quelque chose de très pathologique, parce que, somme toute, il y a effectivement des gens qui peuvent confondre, et il y en a beaucoup, on l'a vu sur le dossier OVNI, il y a des gens qui vont voir un lampion dans le ciel, et puis hop, ça y est, ils vont tous vous faire une description d'une soucoupe volante terrible qui a fait une accélération prodigieuse, alors qu'on sait que c'est un lampion thaïlandais. Donc ça existe aussi. Mais voilà, justement, John Mack m'a dit cette phrase qui m'est restée vraiment pour moi quelque chose comme très 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 important, très important. Il m'a dit, après avoir rencontré et parlé avec près d'une centaine de ces gens, des gens de toute origine, des femmes, des hommes, des mères au foyer, des militaires, des avocats, des pompistes, des gens de toute origine, sans aucun lien entre eux, j'en suis arrivé à me dire que soit je croyais ma vision du monde, auquel cas il fallait que je trouve une solution mais j'en avais pas, ou je croyais mon diagnostic et ces gens-là me racontaient quelque chose qui leur aurait été réellement arrivé. Et il a décidé de suivre son diagnostic. Et ça a demandé un certain courage parce que après la publication de son livre Abduction, il y a eu une cabale qui a été lancée contre lui à Harvard. Il y a eu un procès qui lui a été fait, non pas sur le fond du sujet, parce que Harvard n'allait quand même pas discuter de savoir si oui ou non les extraterrestres étaient là, mais sur sa méthodologie qu'il a mis en place. Donc l'enquête sur lui a duré plus de 14 mois. La personne d'ailleurs qui dirigeait cette enquête était un spécialiste du rein. C'est rigolo d'ailleurs, comment un spécialiste du rein peut tout d'un coup diriger une enquête sur un psychiatre et sur sa méthodologie. Enfin voilà, les petits travers, les petites méthodologies intéressantes. Mais quoi qu'il en soit, après 14 mois d'investigation, les doyens ont rendu leur verdict et John a été lavé de toute faute professionnelle et il a pu continuer son activité comme il l'avait fait auparavant. Et voilà, donc le projet avec France 2 s'est réorienté sur un portrait de John Mack. Qui était assez compliqué à gérer, parce que, imaginez-vous, France 2, faire un portrait d'un psychiatre disant que les extraterrestres sont peut-être là en prime time, c'était assez compliqué à gérer. Heureusement pour France 2, et malheureusement pour nous, John Mack a été tué dans un accident de voiture en septembre 2004, accidentellement à Londres, en regardant du bon côté de la route, sauf que les Anglais, c'est pas le bon côté pour eux. Et le projet est tombé à l'eau parce que, n'étant plus là, on pouvait plus faire portrait de lui. Donc j'ai quand même fait un petit film de 52 minutes, que mon producteur m'a forcé presque à faire parce qu'il y croyait beaucoup. Donc ce film a été vendu sur des chaînes du câble. Il y en a un certain nombre d'extraits d'ailleurs qui sont visibles sur le site de l'INRES pour ceux que ça intéresse, ainsi que l'heure d'interview que j'avais fait avec John Mack avant son décès, qui est également sur le site de l'INRES en intégralité. Voilà, j'ai donc mis toute cette histoire dans ce bouquin, qui est sorti il y a maintenant 2 ans et demi, dans lequel je raconte, ça commence sur le Karmapa et ça se termine avec John Mack et avec ma rencontre avec Karine et tous ces autres enlevés. Et puis après la sortie du bouquin, j'avais envie de continuer dans cette voie-là, parce que pour moi c'était un champ absolument extraordinaire et tout d'un coup, ce qui me paraissait prioritaire et extrêmement important 5-6 ans avant telle manœuvre politique en Afghanistan, tel coup d'État à tel endroit, qui était pour moi le summum de l'importance, tout d'un coup devenait assez, pas moins important, mais si, d'une certaine manière, tout d'un coup, là j'avais accès à des questions qui me semblaient vraiment plus cruciales, plus importantes. Et ce qui continue à me poser problème, c'est que, en tant que journaliste normal, ces sujets-là étaient difficilement posables. On pouvait difficilement en parler. Donc j'ai essayé de faire quelques papiers. Sitôt après la publication de ce bouquin-là, j'ai eu envie de poser les mêmes questions et essayer de faire une même enquête sur ce dont parlait Mario tout à l'heure, sur la mort. Parce que au moment de l'accident de mon frère, j'ai ressenti un certain nombre de choses et j'ai voulu savoir s'il était possible de vérifier si mes ressentis étaient réels ou étaient totalement imaginaires. Donc j'ai proposé à Albin Michel de me lancer dans une enquête qui ressemblerait à cette enquête-là autour de la mort et sur mon frère. Donc je suis en train de l'achever, ça a pris pas mal de temps. Et puis ça m'a emmené sur des travers très, très, très différent d'une enquête traditionnelle. Mais en parallèle de ça, j'ai eu envie de... J'avais envie que ce travail, cette richesse que j'avais pu toucher du doigt en travaillant avec John Mack, et puis après ça, en découvrant d'autres écoles, je pense à Stanislas Grof et à tout le courant, notamment de la psychologie transpersonnelle, avec Abraham Maslow et bien d'autres, j'ai découvert tout d'un coup, non plus une seule personne isolée, mais une communauté de scientifiques dans le monde de la santé mentale, mais aussi dans le monde de la physique, de la biologie, des gens qui posaient des questions prodigieusement dérangeantes et qui pouvaient y trouver parfois des réponses et qui pouvaient avancer. Donc j'ai trouvé que c'était excitant, mais à un point phénoménal. Et en fait, l'idée a mûri progressivement. Je me souviens que régulièrement, quand je répondais à des interviews, je disais que ça serait pas mal qu'on réussisse à réunir ensemble les professionnels de santé pour que ensemble on réussisse à avancer. Je me souviens que Renaud, tu m'avais entendu dire ça sur une antenne. Et puis l'idée est venue comme ça, comme presque une aspiration. Non, je dis pas le mot. En juin 2007, j'ai fait un portrait de John Mack dans Paris Match. Et j'avais envie de... Enfin, il m'est apparu important de mettre à la fin de l'article un numéro de téléphone ou une adresse ou quelque chose sur lequel des gens qui penseraient vivre ce type d'expérience puissent se tourner en France. Et malheureusement, je connaissais le nom de Limi, mais je ne connaissais pas l'existence et de tout ce qui était en train d'être mis en œuvre à Limi. Donc, en une ou deux semaines, j'ai dit, je vais créer ce truc-là. J'en ai parlé à un ami qui se trouvait être le psychiatre David Serrant-Schreiber, qui connaissait le travail de John Mack. Et j'ai demandé à David s'il connaissait, lui, un service national qui pourrait accueillir ce type de personnes. Il m'a dit, non, il n'y a rien qui existe. Donc j'ai dit, j'y vais, je fonce. Donc j'en ai parlé à un médecin qui est très proche de moi, vu qu'il se trouvait être mon beau-frère, Bernard Castel, qui a déjà été engagé, il a un peu plus de 10 ans que moi, qui a déjà été engagé par ailleurs dans des mouvements assez importants, notamment concernant le cancer. Il a beaucoup travaillé, il s'est beaucoup appliqué sur des choses comme ça. Donc il a l'habitude, lui, de la mise en œuvre de dynamiques importantes. Et je lui ai proposé de créer, qu'on l'on crée ensemble, l'INRES. Donc ça s'est fait très rapidement. En juillet, les statuts étaient déposés. Et puis, tout début juillet, j'ai un coup de fil de Renaud qui me dit « Mais dis donc, on l'a créé, nous aussi, ça. On a créé ce S-Psy il y a quelques semaines. » Et on s'est dit « c'est ballot, ça, quand même. » Donc, on s'est rencontrés à cette époque-là en se disant « il faudrait quand même qu'on essaye de faire ça ensemble. » Parce que nous, la machine était engagée. Et puis, moi, j'avais cette passion, cette envie de mener aussi quelque chose que je sentais porter. Donc, le rapprochement et la communauté d'idées entre l'IMI et l'INRES c'était pratiquement dès le départ enclenchée. Et puis voilà, on est parti, nous, avec une idée de départ qui était pour moi d'essayer de rassembler les professionnels de santé autour de cette question-là, mais sans savoir trop comment j'allais m'y prendre, qui étaient les professionnels de santé. Pour moi, un psychiatre, c'était John Mack, donc c'était forcément quelqu'un de vachement bien. Je découvre qu'il y a plein de psychiatres pour qui c'est comme ça et puis on n'en sort pas. Donc je me suis un peu dépucelé au fur et à mesure des premiers mois d'existence de l'INRES. Et puis, on a avancé chemin faisant. Et mon intuition de départ, qui était par contre quelque chose sur lequel j'étais assez ancré et assez sûr, de l'idée qu'il était possible de changer un peu notre regard et de façon globale et de façon ambitieuse, s'est trouvé conforté par des gens qui nous ont rejoints très très vite. Il y en a ce soir parmi vous, des gens qui sont devenus adhérents, qui ont tout de suite répondu présent dans cette initiative. Et puis, c'est allé grandissant. Et en allant grandissant, on a commencer à mieux structurer nos envies, nos besoins, nos possibilités, nos projets de travaux. Donc je dirais que la mission de l'INRES a toujours été extrêmement nette depuis le départ, mais elle s'est construite et elle s'est aménagée au fur et à mesure de l'existence de ces premiers mois. Une des missions, et ce dont je vais parler un petit peu ce soir aussi, un des objectifs premiers, c'était de poser sur le papier, noir sur blanc, ce que c'est qu'une expérience extraordinaire. Est-ce que c'est qu'une approche clinique et qu'une réponse thérapeutique de ces expériences extraordinaires? Donc, très très rapidement, dans les premières semaines, on s'est dit, il faut qu'on édite quelque chose, il faut qu'on publie un bouquin. On a le même modèle avec l'IMI parce qu'on avait dans l'idée d'essayer de faire quelque chose qui ressemble à un livre qui s'appelle « The Varieties of Anomalous Experience », qui est un ouvrage collectif qui a été publié par l'Association psychologique américaine, qui rassemble l'ensemble des expériences extraordinaires sous différentes catégories. On s'est dit, il faut qu'on fasse un truc un peu similaire en France. C'est vrai, Renaud, on aurait peut-être pu partir sur l'idée de le traduire, ça aurait été plus simple. Mais on est parti sur l'idée de le faire nous-mêmes. Donc on est parti dans cette idée-là, et puis ça a pas mal avancé, puisque le manuel est pour plus de la moitié déjà bien rédigé. La différence avec le Varieties, c'est que c'est d'ailleurs une différence qui s'est accentuée, comme tu le soulignais, Mario, au début, qui s'est accentuée dans le cours de l'avancée du travail de l'INRES. On a constaté que énormément de gens vivent des expériences extraordinaires. Alors là, je sors du côté extraterrestre qui m'a amené à cet univers-là. J'en reviens à des choses beaucoup plus communes et beaucoup plus répandues. Je pense aux NDE, ou aux expériences aux frontières de la mort, de perception de gens qui sont en train de mourir, qui vont avoir des visions, ce qu'on appelle en anglais « deathbed vision », les visions au seuil de la mort, ou des communications après la mort. Enfin, tout ce champ de travail autour de la conscience et de la possibilité de survie de la conscience. Il y a les NDE, il y a toutes les expériences qui sont classées en expériences psychospirituelles, en psychologie transpersonnelle. Donc ça couvre un champ très très vaste d'expériences qui vont de l'extase mystique, en passant par le réveil de Kundalini, jusqu'à des choses qui peuvent être beaucoup plus négatives, enfin perçues comme négatives, de possession, choses comme ça. Enfin, l'éventail est extrêmement large. Donc on a essayé, dès novembre 2007, de voir un petit peu, de se réunir à plusieurs. Donc il y avait plusieurs personnes de l'IMI qui participaient à ces réunions de travail pour essayer de voir comment est-ce qu'on organise ça, comment est-ce qu'on classifie ça, quel type de livre on peut faire. Donc on a commencé à faire un chapitrage de l'ensemble du bouquin qui s'est affiné avec le temps. Et puis moi je voulais surtout asseoir ça dans un vrai outil qui existe déjà. Je voulais pas, enfin c'est pas quelque chose qui sort de ma tête. Moi je suis journaliste, mais j'ai pas envie que ça sorte non plus de la tête des gens qui rédigent ces articles. J'avais envie que ça soit un ouvrage pratique, clinique, basé sur une vraie expertise, une vraie connaissance telle qu'elle a pu être développée beaucoup aux États-Unis, mais aussi quand même en France. Il y a des gens comme Johar Siamed qui fait partie du bureau de l'IMI, qui est psychanalyste et qui travaille dans cet univers-là depuis très très longtemps, qui a publié Penser le paranormal, qui est un ouvrage remarquable. Donc voilà, on est dans un univers où il y a du matériau. Donc on avait programmé la sortie de ce manuel pour mars 2009, c'est-à-dire très bientôt. Et puis certains chapitres et certaines parties du manuel ont été assez simples à rédiger, d'autres ont été plus compliquées parce que les choses à rassembler dans chaque chapitre fait à peu près 25-30 pages, donc les choses à rassembler dans 25-30 pages pour que ça reste exhaustif mais que ça soit quand même lisible et compréhensible sont assez difficiles. Donc il y a plusieurs chapitres qui nous ont posé des vrais problèmes d'organisation pour lesquels on a été obligé de reporter la sortie du manuel en octobre 2009. Mais là, Inch'Allah, le 7 octobre 2009, le manuel clinique de l'INRES sera en librairie. Il est, comme je le disais tout à l'heure, il est pour moitié rédigé. Il y a plusieurs chapitres qui sont en cours de rédaction. Après, il y a un gros travail de synthèse parce que c'est un livre qui doit être passé à travers le filtre de personnes qui sont dans cet univers-là, qui le pratiquent, qui travaillent là-dedans. Donc une fois que le manuel est rédigé par les rédacteurs et les groupes de rédaction qui y travaillent, il doit encore être passé, être relu par un certain nombre de gens comme je pense par exemple à Paul-Louis Rabéron qui fait aussi partie de l'IMI, mais à d'autres qui vont nous dire attention là on va trop loin, là c'est pas bien sûr, etc. Parce qu'on a envie vraiment de proposer cet automne un ouvrage qui soit un ouvrage utile pour l'infirmière à Clermont-Ferrand, pour l'aide-soignant à Quimper, pour le psychiatre à Paris, pour tous les gens qui, ou même simplement les parents, le conjoint, qui sont confrontés un jour ou plusieurs fois dans leur vie à quelque chose de vraiment bizarre. Et ça peut être effectivement dans le cercle familial, parce qu'on s'est aperçu dans les mois d'existence de l'INRES qu'on était parti sur une idée où il fallait vraiment une réponse qui soit une réponse très, très clinique, très thérapeutique, très psychiatrique. Et on s'est aperçu que 80% des demandes qui nous parvenaient, si ce n'est plus, n'étaient pas du tout des demandes de prise en charge ou des demandes nécessitant demandant une aide. C'était des gens qui disent, moi j'ai vécu ça, j'avais juste envie de vous le dire. Et puis s'il y en a d'autres chez vous qui ont vécu ça, j'aimerais bien en parler entre nous, parce que ça ne me dérange pas, ça ne gêne pas du tout ma vie, au contraire, c'était même plutôt pas mal. Donc on s'est aperçu que voilà, on a dû aménager un peu notre demande, et on s'est aperçu que cet ouvrage allait être utile à l'univers soignant, au monde soignant, mais allait être utile aussi à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont aucune raison d'aller voir ou d'aller consulter, mais qui ont peut-être envie d'avoir certaines clés. Je pense aux gens qui ont l'impression de percevoir. Enfin, moi, je me rappelle une amie proche, parce que j'ai perdu pas mal de gens autour de moi, je me rappelle d'un ami producteur qui est décédé lui aussi dans un accident de voiture. Et dans les quelques jours après son décès, sa compagne avait fait une petite cérémonie chez elle. Et c'était justement le producteur de mon film sur le Karmapa. Et je revenais de tournage de Dharamsala. Et, Et donc, comme je revenais d'Inde, Lucille, sa compagne, vient me voir et me dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Pour la première fois hier soir, j'ai dormi dans la maison, parce qu'elle avait dormi à l'extérieur depuis l'accident. Et je crois que je suis en train de devenir folle. Je me suis mis dans le lit et j'ai senti Denis s'allonger derrière moi dans le lit. J'ai senti le poids sur le lit, j'ai senti la couette. Et elle me regardait avec les yeux ronds en me disant, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et Lucie n'avait pas de religion particulière, elle n'était pas croyante en quoi que ce soit. Elle venait d'être confrontée à quelque chose de totalement inexplicable pour elle, dans un cas de détresse, et dans un contexte familial et amical qui ne lui permettait d'en parler à personne. À personne. Et ça, en soi, c'est déjà dramatique, et c'est déjà un grave problème. Donc le but du. Moi, je ne sais plus ce que je lui ai dit, enfin, je connaissais pas grand-chose, mais je voyais bien qu'elle n'était pas folle, et je voyais bien qu'elle avait perçu quelque chose qui l'avait profondément bouleversée et qui avait beaucoup de sens pour elle. Et j'ai découvert maintenant, à la tête de l'INRES, que ce type d'expérience est rencontré dans plus de 50% des cas de deuil et que d'étiqueter ça compensation émotionnelle suite à un chagrin, à quoi ça sert? À quoi ça sert? On va publier prochainement une interview qu'on a faite avec Louis Lagrand, qui est un Américain qui travaille sur l'accompagnement de fin de vie et sur le deuil. Et c'est un monsieur que j'aime beaucoup parce qu'il a une vision extrêmement pratique de son travail. C'est-à-dire qu'il a développé toute une méthode et il a suivi des cours pour accompagner les gens en fin de deuil, donc des cours psycho tout à fait traditionnels. Et puis il a été confronté à plein d'histoires comme ça, de gens. J'ai quand même eu l'impression d'entendre ma mère, alors qu'elle est morte il y a 3 jours, venir me dire tout va bien, etc. Donc lui, il a classé ça, il a géré ça pendant plusieurs années en se disant bon. Truc classique. Et puis il est tombé sur une histoire vraiment, vraiment bizarre qui l'a interrogé. Et puis, donc lui, il s'est posé des questions sur ce phénomène. Il a commencé à l'étudier et il s'est rendu compte de ça, qu'il y avait une vraie, comment dirais-je, une vraie fréquence très, très importante de ces expériences au sein de la population. Et plutôt que de se dire, je vais devenir prêtre et je vais dire, oui, il y a une vie après la mort, c'est votre grand-mère qui est venue vous faire coucou. Il s'est dit comment je vais l'utiliser dans ma pratique, sans obliger le soignant que je suis, sans obliger le patient qui vient me voir, à changer son système de croyance. Si j'ai quelqu'un qui est religieux, qui est croyant et qui croit à ça, on va pouvoir mettre cette expérience dans son bagage. Mais si c'est quelqu'un de totalement agnostique, on va pouvoir travailler. Et Louis Lagrand a développé des outils pour travailler justement dans les cas de deuil avec ce type d'expérience-là, sans remettre en question notre vision du monde. Et ça, j'ai trouvé ça déjà utile. Très utile. Et puis, on est au cœur de quelque chose que notre société n'a plus le réflexe de faire. C'est-à-dire qu'on est dans un univers maintenant où on vit depuis plusieurs siècles maintenant avec une science qui a modélisé les choses, qui a matérialisé notre réalité, qui nous a permis des avancées formidables. On est allé sur la Lune grâce à ça. On va bientôt aller peut-être sur Mars. On soigne des choses qui étaient absolument soignables. Enfin, je remets absolument pas en question la richesse de ce cheminement, mais ça nous a peut-être éloigné aussi de certains univers, de certaines réalités qui sont des réalités tout à fait opérationnelles pour des centaines de millions, voire des milliards d'êtres humains à travers la planète, et ce depuis des millénaires. Et je trouve, en fait, avec le recul maintenant, peut-être cette attitude extrêmement présomptueuse de notre part de vouloir extraire tout un champ d'expériences subjectives de la réalité des gens au prétexte que ces expériences ne sont pas censées être possibles. Donc, en fait, c'est là où l'INRES intervient, au-delà du manuel maintenant, et pour peut-être affiner un petit peu justement ce qu'évoquait Mario en début de conférence, c'est peut-être ce qui marque vraiment l'univers de l'INRES et l'univers de l'IMI. L'IMI est dans une démarche, enfin je ne vais pas refaire la présentation, mais dans une démarche de recherche, d'études, de vrai travail scientifique. L'INRES est intéressé à cet univers-là, mais c'est le second couteau, c'est le secondaire par rapport au prioritaire, qui est pour moi l'écoute, l'accueil, la création d'un espace et d'un cadre d'échange et de discussion normal autour de ces expériences, quelles qu'elles soient, mais dans un cadre quand même. C'est là où l'IMI et l'INRES se rejoignent, c'est qu'on ne veut pas faire un nouveau groupe de discussion où on peut dire tout et n'importe quoi. Non, la physique quantique n'explique pas tout le paranormal, non, les raccourcis d'un tel et de tel autre, non, ça ne nous convient pas, on n'est pas là pour dire tout et n'importe quoi, on est là pour proposer un cadre solide qui est celui de la psychologie, qui est celui du transpersonnel par exemple, qui est celui qui a été modélisé par des gens, je redis encore Stan Grof ou John ou plein d'autres, qui permet quand même d'entendre, qui permet de ne plus accueillir une expérience extraordinaire en disant cette expérience-là se manifeste par un certain nombre de symptômes qui sont des symptômes décrivant une schizophrénie, donc la personne est schizophrène. Non, ça c'est le DSM. Il y a beaucoup d'autres écoles qui nous permettent de travailler différemment que ça. La personne vient me voir avec un certain nombre de symptômes, j'écoute ces symptômes, j'ai des outils qui me permettent d'identifier éventuellement ce qui pourrait faire naître ce problème dans la personne, s'il y a un terrain pathologique ou pas. C'est des outils qui n'ont pas, qui ne sont pas, enfin je ne vais pas entrer dans la technique parce que ça c'est pas mon métier non plus, c'est celui de ceux qui participent au manuel et à l'INRES, mais il y a dans ces outils le moyen de, d'identifier le, au-delà du discours et au-delà de la thématique abordée par le patient, qui est capable d'identifier un terrain pathologique ou un terrain propice à l'émergence d'une illusion ou de je ne sais quoi. Et quand justement ce cadre-là permet d'identifier qu'il n'y a rien de tout ça, ben, il convient d'accueillir et de travailler avec l'expérience d'une façon totalement différente. Je posais la question d'ailleurs à un psychiatre qui s'appelle Bruce Grissom, dont on a publié un très grand entretien dans le premier numéro du magazine de l'INRES. Bruce est est professeur de psychiatrie à Charlottesville, en Virginie. Il est président du centre qu'avait créé Ian Stevenson il y a plusieurs décennies. Donc il est spécialisé dans les travaux sur la conscience, Center for Perceptual Studies. Il travaille sur la conscience, c'est un des spécialistes mondiaux des NDE. Et j'avais posé cette question toute simple à Bruce Grissom en lui demandant « Mais comment est-ce que vous dissociez, vous, un comportement pathologique d'un comportement non pathologique ?» Il m'a dit « Mais c'est assez simple, en fait. Vous voyez comment la personne fonctionne avec son expérience. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vient vous dire « Dieu m'a parlé ce matin et m'a dit que j'étais quelqu'un de pas bien, du coup c'est pour ça que je me suis taillé les veines parce que voilà, faut que je m'élimine de la planète. » Bon, là, votre travail de psychiatre vous impose d'essayer de cadrer cette personne, d'éventuellement de l'hospitaliser, de l'accompagner avec une structure un peu lourde. Si vous avez une autre personne qui vient vous dire « Dieu m'a parlé ce matin, il m'a dit que ma mère qui était morte il y a 3 jours allait bien et qu'est-ce que ça me fait du bien, qu'est-ce que ça me soulage ?» Où est la pathologie? Où est le problème? Pourquoi est-ce qu'on devrait décider, à partir de cette expérience-là, que c'est pas vrai et qu'il y a un problème pour la personne? Vous avez en face de vous un patient que vous connaissez, mettons que vous le connaissez depuis longtemps, qui a une vie de famille normale, qui a un travail normal, que vous connaissez depuis des années, qui n'a jamais consulté pour quoi que ce soit, et qui tout d'un coup a un truc bizarre qui lui arrive dans la vie. Un truc. Pourquoi est-ce que... vous avez la réponse. Hein. Si vous êtes là ce soir, c'est que je crois que vous partagez un petit peu cette opinion-là. Donc, nous, ce qu'on a envie vraiment de mettre en avant, mais de mettre en avant de façon construite et structurée à l'INRES, c'est de dire, voilà, il n'y a aucune raison de se prononcer, il n'y a pas de nécessité thérapeutique de se prononcer sur ça. Au même titre que quand je vous dis que je suis amoureux de ma femme, vous n'avez pas besoin de décider si je suis un menteur ou pas. Pourquoi ? On fait partie de l'expérience subjective. Le subjectif n'est pas un outil scientifique, mais les outils scientifiques qu'on a développés aujourd'hui nous permettent des choses prodigieuses, mais ont aussi un champ extrêmement restreint d'activité. Donc c'est pas parce que quelque chose sort du champ proprement scientifique et reproductible que tout d'un coup on doit le laisser de côté ou ne pas en tenir compte. Il y a d'autres moyens, et même si la psychiatrie n'est pas une science lourde, ça reste un outil d'exploration du réel qui est prodigieusement structuré, aidant et qui nous permet d'aller très très loin. Donc voilà, c'est un peu l'aventure INRES. Il y a peut-être pas mal de questions, j'ai peut-être été très bavard. Donc, petit truc pratique aussi, parce que j'ai l'autorisation de Mario pour vous dire ça. L'INRES, c'est une association à but non lucratif, loi 1901. Tout le monde peut devenir membre. En étant membre, vous avez une revue, on édite 4 numéros par an. Donc c'est une belle revue avec, là par exemple ce mois-ci on a un très grand entretien avec Charles Tart qui est l'inventeur du terme état modifié de conscience qui avait publié Altered State of Consciousness en 69 aux États-Unis qui est un pionnier de la parapsychologie. On a également un début d'interview avec Dean Radin, toute la suite de l'interview qui est très très longue également est sur le site de l'INRES accessible aux adhérents. Ça, c'est un autre avantage des adhérents. On a un espace qui s'appelle MyINRES sur le site, qui permet d'avoir toutes les conférences que l'on organise à l'INRES en intégralité, dès le lendemain matin, téléchargeable en MP3, des interviews, des avantages. Enfin, c'est un espace qui va se développer de plus en plus. Donc voilà, pour nous aider, vous pouvez devenir adhérent. Il y a aussi des réductions sur les conférences qu'on organise. On pourra en parler sur des ateliers. Et à propos d'ateliers, la date n'est pas encore fixée, mais dans la première collaboration vraiment effective en termes d'accès au public et de partage avec le public, on va organiser avec l'IMI, je l'espère avant l'été, ça va dépendre du calendrier de certains, un gros week-end de formation découverte en parapsychologie avec Mario Varvoglis, Paul-Louis Rabéron, Johar Siamed et Bertrand Méheu. Donc ça, dès qu'on aura fixé la date et le lieu, ça sera annoncé conjointement sur nos deux sites. C'est un bel événement de rencontre parce que là, on est vraiment, je crois, dans l'intelligence de ce que nos deux organismes peuvent faire. Le fond, la recherche, cette histoire de la parapsychologie que tient l'IMI depuis des décennies et des décennies, cette richesse de recherche qu'ils ont, et nous, cette possibilité de vous le proposer de façon rapide, facile. Voilà quelque chose que je suis très heureux de mettre en œuvre avec vous. Bientôt.